est passé dans notre vie à travers l'Évangile et que nous avons dit oui, il a disposé notre cœur à dire oui, puisque on était devant deux chemins, le chemin de la mort et le chemin de la vie, et l'Esprit de Dieu nous a dit « Choisis la vie, choisis le chemin qui mène à la vie ». Et nous savons que ce chemin porte un nom, il s'appelle Jésus-Christ. Jésus a dit « Je suis moi qui vous parle, le chemin ». Philippe voulait savoir comment faire pour aller à Dieu, et il posa la question à Jésus, mais comment faire? Tu nous parles de Dieu, le chemin, etc. Mais montre-nous le chemin. Jésus a dit, mais Philippe, moi qui te parle. Déjà, il lui dit, depuis le temps que je suis avec vous, tu n'as pas su que moi, Jésus qui parle, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ils avaient la vérité, ils avaient le chemin devant eux, en leur présence, physiquement. Nous, on ne l'a pas physiquement. Jésus est physiquement assis dans le ciel et il est présent au milieu de nous, puisque maintenant il a le pouvoir d'être là, d'être en Amérique, d'être avec les chrétiens qui sont allongés sur un lit d'hôpital, avec ceux qui sont à la maison, il est partout, il est omniprésent. Il a ce pouvoir de voir en un instant, d'un seul regard, nous avons besoin de regarder 10 000 fois, mais lui d'un seul regard, il sait ce qui se passe sur toute la terre. À l'instant T, il sait exactement ce qui se passe. Il n'a pas besoin qu'on l'informe en disant « Tiens, il s'est passé ça là-bas, ça ici. » Non, non, il sait tout ce qui se passe. Et nous sommes justement dans la présence de cet être qui est si merveilleux, qui est Dieu. Dieu est devenu notre Père céleste. Il est devenu notre Père céleste. Nous avons en lui un Père. Nous avons en lui un Dieu tout-puissant. Nous avons en lui un refuge et il nous a fait connaître ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux auprès de lui, c'est son Fils Jésus-Christ. Il nous l'a révélé. Et justement, Jésus, la révélation du Fils de Dieu, nous a emmené à prendre conscience de ne plus faire les choses de manière religieuse. Nous sommes venus en notre âme et conscience, étant conscients que nous sommes venus dans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Que nous sommes dans sa présence. Et étant dans sa présence, comme je le disais au début, nous faisons comme Marie, qui a mis tout de côté. Jésus est venu chez elle, avec les 12, avec les disciples. Et quand Jésus est rentré dans cette maison, peut-être qu'elle n'avait rien préparé. Il n'y avait rien de prêt, puisque Marthe, sa sœur, était occupé aux tâches, à préparer peut-être quelque chose, à nettoyer quelque chose. Et je le disais il n'y a pas longtemps, que quand nous sommes occupés à nos affaires et quand le Seigneur nous parle, nous devons tout arrêter pour aller nous occuper de lui. Eh bien, Marie, elle a été sensible à l'Esprit de Dieu. Cette sensibilité que je disais que certains ont perdue et que Dieu veut nous renouveler cela en nous, c'est cette sensibilité à son Saint-Esprit, à sa voix. Voilà, j'ai entendu ta voix. Et ta voix, j'ai pas endurci mon cœur. J'ai pas fermé mon cœur à ta voix, mais j'ai obéi à la direction que ta voix me donnait. C'était de tout arrêter et d'aller me trouver en ta présence. Et Marie l'a fait. Marie a laissé sa sœur occupée, tracassée, agitée. C'est pour cela que quand nous sommes en compagnie de gens qui sont agités, éloignez-vous d'eux, priez pour eux, mais éloignez-vous de toute personne agitée. Recherchez ceux qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu, ceux qui vont toujours avoir une parole pour vous pousser à vous tenir, à vous consacrer dans la présence de Dieu. Nous avons perdu tant de temps en chemin. Aujourd'hui, nous devons racheter le temps que nous avons perdu. Et certainement, Dieu peut nous faire la grâce de racheter ce temps-là. Comment ? En mettant de côté toutes sortes de préoccupations et en disant « Seigneur, notre vie est si courte sur la terre, on n'est qu'un souffle, ça va tellement vite qu'en espace d'une fraction de seconde, on quitte le monde visible pour basculer dans le monde invisible. Il n'y a qu'un pas à faire pour y aller. Et mais c'est Dieu qui tient le souffle de notre vie dans sa main. C'est lui, l'homme que nous sommes. Nous ne sommes pas maîtres du jour que nous devons quitter la terre. Certaines personnes décident de se donner la mort, de se couper les veines, de se suicider. Eux, ils décident comme ça. Mais l'homme, à la base, n'est pas maître. N'est pas maître de dire « aujourd'hui, je quitte la terre ». Non, c'est Dieu qui tient le souffle de notre vie. Et plus précisément, c'est lui qui tient notre vie dans sa main. Et c'est Jésus qui décide de nous faire quitter la terre, que ça nous plaise ou pas, que nous soyons malades ou en bonne santé, Jésus décide d'arrêter le moteur et on s'en va. Qui peut lui dire « non, ne fais pas, pourquoi tu as fait ?» On peut lever la main vers le ciel, le poing vers le ciel, on peut avoir de la colère en nous, mais c'est lui qui a décidé de faire ainsi. Et il le fait quand il veut. Que nous soyons ici tranquillement assis, ou dans le métro, ou à la maison, ou en train de dormir, c'est lui qui est maître de notre souffle. D'accord ? Alors, c'est lui qui décide. Et c'est pour ça que le psalmiste Moïse qui a écrit le psaume, Dieu l'a inspiré à écrire ce psaume 90, vous vous souvenez ? Prenez-le avec moi 2 minutes. Cet homme de Dieu que Dieu a fait mourir. Dieu a dit à Moïse, tu montes sur la montagne, tu ne vas pas mourir de maladie, puisque Moïse était très âgé, mais il avait une vue parfaite, 10 sur 10, les deux yeux, il ne tremblait pas, il était en pleine forme, et Dieu a dit, Moïse, ça y est, c'est fini, regarde le pays de loin, tu ne le verras, tu le verras de loin, mais tu n'y rentreras pas. Parce que Dieu avait un compte à régler avec lui. Eh bien, Moïse, Dieu l'a fait mourir et c'est Dieu lui-même qui a fait l'enterrement. Quel privilège! Certainement, il y a des curés, il y a des rabbins, il y a des pasteurs qui font des enterrements, mais pour cet homme de Dieu-là, c'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse. Et voilà ce que cet homme dit. Lui qui a vécu, Dieu lui a donné des jours et des jours, et regardez ce qu'il dit. Inspiré par le Saint-Esprit, il dit ceci, dans le psaume 90, verset 10, il dit ceci, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. » Là, c'est des années, certainement des siècles après, que Adam et Ève ont péché. Adam et Ève, avant le péché, devait vivre, ne devrait jamais connaître la mort. Mais dès que le péché est rentré, vous regarderez dans Genèse, je crois, chapitre 5, il est parlé des personnes qui ont suivi de la génération d'Adam, et ce qui en découle, à chaque fois, sauf un seul, comment il s'appelle ? Enoch. Enoch a été enlevé, exactement comme Philippe, quand Philippe a terminé sa mission dans Actes, je crois bien, auprès de l'énuque éthiopien, le ministre de Candace, enfin de la reine d'Éthiopie, c'est-à-dire le ministre des Finances. Eh bien, dès que Philippe a terminé sa mission, la Bible nous dit que le Saint-Esprit enleva Philippe, c'est-à-dire une fois qu'il a expliqué à cet homme ce qu'il lisait, Isaïe 53, ce monsieur ne comprenait pas. Et Philippe lui a expliqué les choses. Et cet homme a dit, mais Philippe, regarde, il y a de l'eau ici. Qu'est-ce qui n'empêche que je sois baptisé ? C'était pas une piscine chauffée, 28, c'était pas ça. Et imaginez-vous, voyez la scène, le ministre des Finances de la reine d'Éthiopie. Ce monsieur devait être habillé élégamment. Et le fait que l'évangile lui a été présenté, Jésus-Christ lui a été présenté, il a accepté de s'humilier en disant « mais il y a de l'eau ». Et peut-être cette eau qui était là était une eau stagnante, qui peut-être sentait mauvais, je ne sais pas, on ne sait pas. Mais il a dit « voici de l'eau, qu'est-ce qui n'empêche que je sois baptisé ?» Ce qui lui préoccupait l'esprit, c'était d'obéir, c'était de se soumettre, c'était de plaire à Jésus-Christ. Et quand on se fait baptiser, on ne se fait pas baptiser pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu et à Jésus, et pour obéir à Dieu. Eh bien, cet homme a dit, Philippe a dit, on y va. Alors, je vois ce monsieur descendre avec son vêtement merveilleux, parce que il avait les moyens. Il était en mission, il était venu adorer l'Éternel. Et comme Dieu entend les prières, même des païens, il ne les exauce pas, mais il les entend, puisqu'il est Dieu, il fait ce qu'il veut. eh bien, ce jour-là, Dieu avait vu que le cœur de cet homme était sincère et il plongeait ses regards dans la loi Ésaïe 53. Et quand on cherche à plaire à Dieu à travers Jésus-Christ, Dieu s'arrête sur notre vie. Peu importe cet homme ou cette femme qui est loin de Dieu peut-être aujourd'hui et qu'on dit « mais non, ce monsieur ne mérite pas la grâce de Dieu », de quel droit on se permet ? Dieu est capable de pousser cette personne à trouver une Bible dans une brocante et cette personne plonge son regard justement dans l'évangile selon Saint Jean, dans l'évangile selon Matthieu et même peut-être Ésaïe 53 et ce monsieur, cette dame commence à se poser des questions. Dieu envoie un de ses enfants sur le chemin de cette personne et lui parle de Jésus. Cette personne se convertit, naît de nouveau et rentre au sein du peuple de Dieu. Ne sous-estimons pas la puissance du Dieu que nous servons. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà le désir du cœur de Dieu. Et je dois m'adapter au désir du cœur de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne fait exception de personne. Eh bien, cet homme a dit à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui n'empêche que j'obéisse et que je sois baptisé. Philippe dit à cet monsieur, parce que ce monsieur l'a invité à monter dans son char. C'était pas du bois dans son char, certainement, mais c'était confortable parce qu'il y avait des kilomètres à faire pour retourner en Éthiopie. Et cet homme a convié Philippe, monte. Et Philippe lui expliqua. Le Saint-Esprit pousse Philippe à lui expliquer que cet homme dont il est parlé dans Ésaïe 53, qui est mystérieux, qui était cacheté, il n'avait pas la révélation. Il dit, cet homme-là, vous savez qui c'est, monsieur ? C'est Jésus de Nazareth. C'est de lui qu'il est parlé, qu'il est question. Et cet homme a été bousculé dans sa vie, dans son cœur. Il a vu les souffrances que Jésus, homme, devait souffrir à travers la main des hommes. Il a été bousculé dans son cœur. Et il a dit, Philippe, je veux obéir, parce que c'est pas normal que ça soit cet homme comme une brebis muette qu'on emmène à l'abattoir pour être égorgé, pour être tué, c'est-à-dire Jésus, qu'on emmène à la croix, qu'on le cloue sur une bois, sur le bois de la croix, et qu'il meure à cause de mes péchés, je veux lui obéir aujourd'hui. Cet homme, avec Philippe, est descendu. Et Philippe, je vois la scène, et dites-vous bien que ce n'était pas une eau chauffée, comme nous sommes privilégiés ici, les baptêmes qui se font ici, c'est une eau à 28. Les frères prennent le soin de le régler pour que quand on rentre dedans, il n'ait pas froid. Ce n'était pas ça. Et cette eau est javelisée et bien traitée pour qu'il n'y ait pas de microbes. Mais cet homme, l'énuque éthiopien, bien habillé, bien sur lui-même, a dit « De l'eau, je veux là aujourd'hui que tu me baptises, Philippe. » Et là, ils sont descendus. Voyez la scène. Ce monsieur certainement s'est mis à genoux dans cette eau. On ne sait pas combien de temps, si c'était une eau qui était en mouvement ou stagnante. Eh bien, il a dit, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est de me faire baptiser. Que je rentre maintenant dans la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et j'apporterai Jésus en Éthiopie. Je serai une lampe, je serai une lumière. Je vais être une lumière, un témoin à la gloire de Dieu là-bas, dans mon pays. C'est comme ça qu'un grain, l'évangile à travers cet homme, a franchi la frontière et a été en Éthiopie. Nous avons des frères et sœurs en Éthiopie. Et c'est comme ça, l'évangile se propage comme un virus qui contamine les cœurs et les âmes pour que le royaume de Dieu soit rempli d'hommes et de femmes, sauvés par l'évangile. Et Philippe a certainement dit à cet homme avec respect, écoute maintenant, écoutez monsieur, je vais vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes? Oui, je suis prêt, comme les frères y font ici. Et j'ai remarqué à cause du Covid-19, tout est arrêté. Baptême, il y a beaucoup de choses qui sont restées stagnantes, on ne fait presque plus rien. Mais rassurez-vous, vous qui devriez vous faire baptiser, restez tranquille. Continuez à vous attacher à Jésus. Dieu connaît les circonstances. Et le temps viendra Ou même peut-être, on va prendre nos sacoches et on va venir chez vous et on va vous dire chauffez la baignoire. Ceux qui ont une douche, ils ont un problème, on ira chez la voisine ou le voisin. Mais on arrive et avec des frères, on va vous plonger dans la baignoire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est de l'eau, non? C'est pas du rhum, c'est pas du vin, c'est de l'eau. Alors cet homme, Philippe a pris cet homme, il l'a plongé dans l'eau. Et j'imagine la scène. Cet homme était dans un état. Peut-être, la Bible nous dit, il s'en va tout joyeux. Son cœur était heureux d'avoir obéi ce jour-là. Et une fois, vous avez remarqué, une fois que Philippe a terminé son travail, que s'est-il passé? Il y a eu un enlèvement qui a eu lieu, une disparition. Pas comme Enoch, parce que Enoch, on peut toujours le chercher, on ne le trouvera jamais ici-bas, il est au ciel. Le corps de Moïse, pareil. Élie, pareil, a été enlevé au ciel. Et Philippe a été enlevé par le Saint-Esprit, elle a été emmenée à une autre mission, je ne sais où, à Azoth, selon le nom de la ville. C'est bien ça. Ça veut dire qu'il a fini son travail. Vous avez remarqué, quelquefois Dieu se sert de nous pour une mission bien précise et il passe le relais à une autre personne. On ne peut pas être celui qui sème, qui bêche, qui sème, qui arrose. Non, chacun a sa part de travail. C'est à chacun de nous de savoir à quoi Dieu nous a appelés. Et une fois qu'on a terminé notre travail, on passe le relais à celle et celui qui doit prendre le relais. C'est une manière aussi d'être humble, de reconnaître qu'on ne peut pas tout. On n'a pas tout, on n'a pas tous les dons, mais chacun a reçu différemment le don de secourir, le don d'exhorter. Chacun a reçu. Et c'est pour ça que chacun de nous, nous devons savoir ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions l'utiliser au bon moment, à bon escient et à la bonne heure, comme on dit. Amen. Et une fois que Philippe a fini son travail, le Saint-Esprit l'a enlevé. Je ne sais pas comment, si c'est par la veste, la robe, la tunique, mais il l'a enlevé, il l'a envoyé ailleurs. Vous me suivez? Revenons à notre texte. Il faut mettre une sonnette pour me dire à quelle heure je dois finir. Parce que maintenant, on a réduit, on est à des heures réduites, etc. Et oui, frère. À 15 heures, on doit finir. D'accord. Et si je dépasse, la police va venir? Ah, il me dit, j'en sais rien. Bon. Prenons la parole, nous y sommes déjà dedans. Le psalmiste Moïse, dont le corps a été enlevé, et Dieu lui-même, dans le ciel en ce moment, Moïse a connu la mort. Élie et Enoch n'ont pas connu la mort. Ils ont été enlevés. Et je le disais tout à l'heure, quand je commençais à lire ce texte, il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et ça, Dieu dit, et pour les plus robustes, 80 ans. Il y a 70 ans pour les fragiles, les moins robustes, et pour ceux qui ont les os bien costauds. Vous savez, les gens qui vivent dans les pays de l'Est, on dit, ils sont, voilà quoi, c'est des durs à cuire. Alors ceux-là, certains meurent avant, et d'autres, vous voyez que c'est Dieu qui jauge, c'est Dieu qui décide, c'est Jésus qui décide. Et là, il est dit, parce que Dieu dit ceci, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et comme je vous disais, quand on compare ceux qui étaient après le péché, Adam et Ève, vous voyez qu'ils vivaient 969 ans, 970, 77, 777 ans. Vous voyez qu'il y avait, Dieu les laissait vivre très longtemps, très très longtemps. Mais ça, c'était avant le déluge. Mais comme Dieu voyait que les hommes, dès qu'ils se levaient le matin, il n'avait qu'un désir, c'était de faire du mal. Dieu a dit, maintenant c'est fini, je réduis le temps. Dieu a baissé la jauge et il a mis les choses à 70 ans et pour les plus robustes, 80 ans. Vous avez remarqué combien la vie, notre vie ici-bas, elle est fragile, elle est courte, elle est brève. La brièveté de la vie, comme on dit, ça passe très vite. Et Moïse dit ceci, et vous lirez dans Genèse chapitre 5, vous verrez 969 ans, puis il mourut. 900 et quel, puis il mourut. 700 et quel, puis il mourut. Et quand on passe à Enoch, on dit, tiens, celui-là, il n'est pas mort. Mystère, il est passé où? Il a disparu? Non, il a été enlevé par Dieu. Parce que Enoch a marché avec Dieu, il plaisait à Dieu. Sa foi, sa ténacité, son amour pour les choses de Dieu, sa crainte, son respect, il était accroché. Il donnait priorité à Dieu tous les jours de sa vie. Et Dieu a dit, ce monsieur-là, il me plaît. Il n'a plus rien à faire sur la terre, je vais l'enlever. Et vous verrez que les personnes, quand Dieu nous laisse en vie longtemps sur terre, c'est parce qu'il veut que nous nous sanctifions, c'est qu'il y a un travail qui doit se faire en nous. Mais quand Dieu nous prend, nous fait quitter la terre, ça nous fait quelque chose quand on est jeune. Mais voyons aussi les choses d'un autre angle. Que quand Dieu fait partir quelqu'un qui est jeune, ça veut dire que quelque part, Dieu trouve en disant, ça y est, elle ou il est mûr. C'est comme un fruit qui est mûr, je viens cueillir ce fruit. Je ne vais pas la laisser tomber en terre, ni pourrir, ni être mangée par les vers ou autres, c'est-à-dire le péché, mais je viens le cueillir. Je viens cueillir ce fruit. Et certainement, on ne sait pas, on a commencé l'année 2021 pour certains, mais si Dieu décide, comme il l'a fait pour la sœur Gamma, si Dieu décide que ça y est, le fruit est mûr, il vient, il te demande pas ton avis, ni l'avis de la famille, qui que ce soit, il vient, il cueille le fruit. Il le prend la nuit, le jour, dans nos activités, et c'est pour ça qu'il nous dit que nous soyons prêts, prêts pour rencontrer notre Sauveur. Et si on n'est pas prêt, Dieu maintenant passe à la phase de sa patience. Il patiente envers nous. La Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est-à-dire, il use de grâce, il use de patience afin qu'aucun ne périsse, mais pour que tous parviennent à la repentance. C'est-à-dire, Dieu travaille dans notre cœur, il patiente envers nous, et je le bénis pour cela. Il patiente envers nous pour que nous, il fasse son travail en nous. Vous savez, il travaille, Dieu, comme le divin potier. Il revient jour après jour pour travailler ce vase que nous sommes, pour l'emmener à prendre la forme qu'il veut, parce qu'il y a des défauts, il y a des carences, il y a des lacunes dans nos vies. Alors le divin potier, il vient jour après jour et il travaille cette argile, il travaille cette masse qui quelquefois est rebelle, n'accepte pas. Il le fait dans son amour, parce qu'il travaille pour nous faire entrer au ciel. Amen. Et s'il a trouvé bon que notre sœur Gamma s'endort, c'est lui qui a trouvé bon. Elle avait des clés, elle ouvrait des portes, elle fermait des portes ici. Pendant des années, elle faisait partie des piliers, comme avec notre sœur Catherine. Elle était au début, il y en avait 5 je crois. Elle faisait partie des 5 qui travaillaient, qui a consacré ses forces, son énergie, tout elle a mis au service de Dieu. Mais, vous savez, quand on vieillit, quand on prend de l'âge, il faut toujours veiller à ce que le fruit reste mûr, mais qu'il n'y ait pas de ver qui rentre dedans. Et je veux dire par là que notre sœur, Dieu a trouvé bon que c'était le moment, le temps pour qu'elle rentre à la maison. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a endormie et elle est partie, comme son mari il y a quelques mois. Les circonstances ont été similaires. Ça nous fait travailler l'esprit, parce que la Bible dit au jour du malheur, nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir au jour du malheur. Et notre sœur, je le disais, avait des clés. Est-ce qu'elle est partie avec les clés qu'elle avait? Dites-moi. Elle est partie avec la maison? Elle est partie avec la voiture? Elle est partie avec ses vêtements? Nue, elle est venue. Nue, elle partira. On va l'habiller, parce que c'est comme ça. Mais elle est poussière, elle retournera poussière. Son âme et son esprit maintenant se reposent. Les anges sont venus la chercher. Quand elle est partie, les anges, Jésus a envoyé les anges la chercher. Comme Lazare, le pauvre. Ils l'ont emmenée dans le royaume de Dieu, elle se repose. C'est fini. Elle n'est pas partie avec les clés. Elle s'occupait ici de tout ce qui était Sainte-Seine, enfin l'organisation. C'est fini ça. On n'entendra plus jamais sa voix. On l'entendra plus parler. Comme moi je vous parle, un jour vous n'entendrez plus ma voix et la vôtre avec. C'est fini, on ne la verra plus. On n'aura que des souvenirs de notre sœur Gamma. Que Dieu console tous ceux et celles qui la connaissaient, qui ont travaillé, qui l'ont côtoyée. Elle venait le mercredi faire le ménage ici, avec d'autres. Mais un jour, de la même façon que nous avons les clés de notre maison, de la même façon qu'un jour, c'est un autre qui prendra les clés. On sera obligé de lâcher des choses. Parce qu'on est appelé à passer de l'autre côté. On est appelé à traverser, à sortir du monde visible pour entrer dans le monde invisible. Et il y a vraiment un monde invisible, c'est le monde de Dieu. Il y a le monde de l'adversaire, mais il y a le monde de Dieu où nous devons aller. Et c'est un monde où on ne peut pas y aller avec nos yeux humains. Avec ce corps-là, on ne peut pas y rentrer. On est obligé de passer par la mort ou par un changement. En un clin d'œil, on sera transformé, dit l'Écriture. On ne pourra pas rentrer parce qu'avec ces yeux-là, on ne peut pas contempler les choses invisibles. C'est avec un nouveau corps qu'on peut regarder ce qui se passe dans l'invisible. Et on doit y aller. On doit se préparer pour entrer dans ce monde-là. C'est comme si moi, je peux passer pour aller de l'autre côté, en passant à travers ce morceau de bois. Eh bien, c'est ce qui se passera le jour où on doit quitter la terre. C'est qu'on quitte le corps matériel et on va rentrer avec un corps spirituel, on va basculer de l'autre côté. Et ça se fait en une fraction de seconde, mes bien-aimés. Après, tout autour, il y a tout un tas de choses qui se fait, mais ça se fait en une fraction de seconde. Ça, c'était la parenthèse. Je reviens. 70 ans, et pour les plus robustes, 80 ans. Et il dit, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Voilà l'homme sur la terre. Nous, aujourd'hui, avec Jésus, c'est différent. Bien que nous connaissons des moments difficiles, mais c'est différent. Il dit, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite. Et nous nous envolons. La brièveté de la vie, la rapidité avec laquelle la vie passe, le Seigneur Moïse est en train de nous parler de la part de Dieu en nous disant voilà comment les choses se passent. Et il dit ceci, il dit un peu plus bas, qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Nous sommes rentrés ici cet après-midi et nous sommes venus justement le cœur chargé comme des abeilles qui ont été butinées et qui reviennent à la ruche remplies de pollen. Nous sommes venus le cœur rempli, le Saint-Esprit a rempli nos cœurs, je le crois, pour venir offrir à Dieu, lui rendre un culte qui lui soit agréable. Nous sommes venus présenter à Dieu notre offrande. Nous sommes venus comme des sacrificateurs pour offrir à Dieu le nom le plus merveilleux, proclamer ce nom devant lui, Comme Dieu a proclamé le nom, son propre nom, quand il a caché Moïse dans le creux du rocher, il n'a pas prononcé un autre nom. Eh bien, devant l'Éternel, devant Dieu cet après-midi, Dieu ne prend plaisir qu'à un seul nom devant lui, c'est celui de Jésus-Christ. Nous sommes venus acclamer son Sauveur, notre Sauveur, son Fils bien-aimé. Nous sommes venus le louer, nous sommes venus l'adorer, nous sommes venus l'élever. Nous sommes venus dire à Dieu combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Tu nous as donné ce que tu avais de plus cher. À toi la gloire, à toi la louange, à cause du nom de Jésus. Parce que l'Écriture nous dit par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Nous sommes venus pour cela cet après-midi. Amen. Comme des abeilles remplies de pollen, nous sommes venus offrir à Dieu ce temps, ce moment si précieux pour nous et qui se fera de plus en plus rare. Mais ô combien précieux aujourd'hui. Et comme nous sommes dans sa sainte présence, Dieu nous rappelle combien nous sommes fragiles. Il nous rappelle la brièveté de la vie. Il nous le rappelle et nous devons nous rappeler combien nous sommes fragiles, combien la vie passe vite et combien aussi qu'il nous faut racheter le temps. Et il dit ceci, « Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due ?» Moïse le dit. Et il dit au verset 12, « Enseigne-nous, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, que Dieu nous enseigne comme un maître enseigne les élèves. Nous avons besoin que le maître qu'est Jésus, Rabbi, maître, où demeures-tu ? Nous avons besoin que Jésus, notre sauveur, notre grand frère, notre seigneur et notre maître, nous avons besoin qu'il nous enseigne combien nous sommes fragiles. Et il nous dit, enseigne-nous à bien compter, dites-le, nos jours. Enseigne-nous, c'est-à-dire apprends-nous à bien compter nos jours. Il ne parle pas de mois, il ne parle pas de semaines et il ne parle pas d'années. Il nous parle de jours. Et Moïse, des années après, Jésus arrivait et Jésus disait « À chaque jour suffit sa peine ». Parce que chaque jour que Dieu nous donne de vivre sur la terre va emmener son cortège de peine, de soucis, d'inquiétudes, de je ne sais quoi. Chaque jour que Dieu nous laisse vivre sur la terre, eh ben ce jour va emmener quelque chose, soit de bon ou de mauvais. Mais aujourd'hui, c'est un aujourd'hui que Dieu nous donne. Et il nous dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que ça veut dire que si on donne de l'attention, plus d'attention à la voix de Dieu, Dieu nous aidera à passer ce jour avec succès. Il nous aidera à surmonter nos inquiétudes, nos peines, nos craintes, toutes sortes de choses. Il nous aidera si nous lui donnons la première place. Mais si nous le faisons passer à la troisième, à la quatrième place, je peux vous dire que les soucis, les nouvelles que vous entendrez dans une journée peuvent vous anéantir. Mais si nous allons puiser nos forces avant, dans sa sainte présence, alors la Bible, il y a une parole de Dieu qui vient et qui dit ceci, le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Pourquoi ? Parce que son cœur est confiant et ferme en l'Éternel. C'est-à-dire, il a une foi, il ne craint pas les mauvaises nouvelles parce que il va puiser ses forces dans la parole de Dieu, qui est une source, qui produit une force, une assurance, et qui chasse la crainte. Et quand dans la journée, il entend une mauvaise nouvelle, il encaisse. Parce que en amont, il y a la parole de Dieu qui était déjà là, qui lui donnera de supporter les nouvelles, les mauvaises nouvelles qu'il pourra entendre dans une journée. Vous me suivez ? Et la mauvaise nouvelle que nous avons eue, c'est le départ de notre sœur Gamma. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres encore il y a quelques mois, quelques semaines, quelques jours qui sont partis. Et pendant que j'y pense, il y a une jeune sœur que j'ai eu la maman, je l'ai eue, j'ai parlé avec elle, je l'ai encouragée, elle s'appelle Gabrielle, elle a été hospitalisée en urgence cette nuit parce qu'elle a un cancer. et un cancer qui est rare. Normalement, c'est les personnes âgées qui ont ce type de cancer. Mais elle, elle l'a. Elle n'a qu'une vingtaine. Elle a 24 ans, 26 ans. Mais elle a un état d'esprit qui m'a beaucoup, qui m'a touché le cœur. Elle parle. Elle est dans la foi. Elle vit l'épreuve. Mais vous l'entendrez, vous verrez comment elle parle. Elle m'encourage. Et à la limite, je me dis, mais qu'est-ce que je peux te dire? C'est elle qui m'encourage parce que elle est accrochée à Jésus. Elle fait face. Elle regarde le cancer. Elle regarde en face la maladie. Que tu m'emmènes, que tu m'emportes, ça va me faciliter la tâche pour aller retrouver Jésus. Mais je te fais face. Je ne te laisse pas me décourager. Voilà comment son discours qu'elle a. Et une jeune fille. Et je bénis Dieu pour cette foi que Dieu renouvelle jour après jour en elle pour faire face à la maladie. Que Dieu la fortifie. Et je lui ai dit que dans l'épreuve, l'esprit de l'homme le soutient. J'ai dit, c'est ça qui compte. C'est pas le mental, comme les hommes y disent, mais le Seigneur, le Saint-Esprit, la parole de Dieu soutient son esprit afin qu'elle ne défaille pas, mais elle reste debout grâce à Jésus et grâce aux prières des personnes qui la connaissent et qui la soutiennent. Que Dieu la bénisse là où elle est. Que Dieu pose sa main sur elle encore. Et il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à ce qui est sage. Nous vivons des temps dangereux, des temps très graves, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous devons faire très attention à ce que nous faisons. Et il y a des priorités aujourd'hui, mais la priorité des priorités, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, il doit être notre priorité, il doit être le number one, le premier en tout. Parce que nous vivons des temps difficiles, des temps qui doivent mettre en évidence une attitude de sagesse de notre part. Nous devons faire attention afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, dit l'Écriture. Et nous allons prendre un texte qui se trouve, que j'ai noté bien sûr, hein, un texte dans le psaume 39. La fragilité. Je le disais, nous avons commencé l'année, mais nous ne savons pas si nous allons la terminer. C'est pour ça qu'il dit, à chaque jour suffit sa peine. Apprends-nous à bien compter nos jours. Le psaume 39, psaume de David, bien sûr. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par, verset 2, je mettrai un frein à ma bouche. Et pourquoi il met un frein à sa bouche? Parce qu'il y avait le méchant qui était juste en face de lui. Tant que le méchant sera devant moi. Parce que le méchant ne peut pas comprendre. Vous savez, quand un chrétien passe par l'épreuve, bien souvent ceux qui ne sont pas spirituels, qui ne sont pas nés de nouveau, vont dire parce qu'il a péché, parce que ceci, parce que cela. C'est un discours qui n'a aucun sens. Et dans ces cas-là, quand le chrétien est dans l'épreuve, eh ben, la meilleure solution, c'est de ne pas voir que c'est la maladie, que c'est Satan ou que c'est les hommes, mais il faut aussi voir que c'est la main de Dieu qui est là. C'est la main de Dieu qui est sur toi, qui permet ce temps. Pourquoi ? Pour que nous apprenions, pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Pour que nos paroles soient peu nombreuses. Pour que nous sachions que quand nous venons dans sa présence, nous l'avons fait maintes et maintes fois, nous l'avons fait de manière légère, à la légère. Dieu veut enlever toute forme de légèreté chez nous. Il veut que quand nous venions à sa rencontre, nous venions lui rendre un culte, nous venions à retrouver nos frères et sœurs, Dieu veut que nous réalisions tous ensemble que nous sommes sur un lieu qui est saint. quand il n'y a personne dans la salle, ce lieu n'a aucune valeur. Mais quand les enfants de Dieu se retrouvent, ce lieu prend de la valeur. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit une parole, il a dit « Là où deux ou trois sont rassemblés, réunis, se retrouvent en mon nom, non pas au nom d'une dénomination, non pas au nom d'un homme ou d'une femme, mais en mon nom, je suis moi, Jésus, au milieu de vous. » Il est là cet après-midi. Et c'est pour cela qu'en venant, avant de venir, j'ai dit « Seigneur, Jésus, je veux enlever les chaussures de mes pieds. » J'ai des chaussures, bien sûr, mais vous voyez l'image. « Je veux ôter les chaussures de mes pieds. » C'est-à-dire volonté propre, désir propre, tout ce qui est « oui, je viens, oui, je ceci, je cela ». Dieu veut que nous mettions ça de côté et que nous nous laissions remplir par le Saint-Esprit pour pouvoir offrir à Dieu ce que l'Esprit a mis en nous. Parce que tout ce qui vient de nous, ce n'est pas bon. Hein. Tout ce qui vient de l'homme est empreint de péché et entaché, justement, de souillure. Mais quand nous nous laissons remplir le cœur, c'est pour ça que quand nous venons, nous devons dire, Seigneur, je me vide pour que tu me remplisses. Vous voyez ? On se vide devant lui, on se nettoie, on enlève nos chaussures, nos vêtements, nos prétentions, on enlève tout ce qu'on pense connaître de lui. On dit, Seigneur, on ne sait rien de toi. En réalité, je te connais peu, je te connais à peine, mais je t'aime. Mais remplis mon cœur. Et dans cet état d'esprit, le Saint-Esprit nous remplit de quelque chose de merveilleux. Il nous remplit. Dieu nous remplit. Et nous venons avec une crainte, avec une sensibilité rare qu'on a certainement perdue parce que on vient comme si, comme habitude. Eh bien, on vient avec cette sensibilité à nouveau. Et là, devant Dieu, on n'ose même pas lever la tête. Et pourtant, Dieu dit, viens, tu peux rentrer. Parce qu'à travers Jésus-Christ, je t'ai donné un libre accès. Tu peux venir dans le sanctuaire, tu peux rentrer dans ma présence. Viens, ma fille, viens, mon fils, rentre, n'aie pas peur. Ça y est, Jésus a payé le prix. Il a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il a déjà tout accompli. Viens, mon enfant, rentre, viens dans ma sainte présence. Viens m'adorer, viens me louer, viens répandre ton âme devant moi. Viens pleurer devant moi, dit Dieu. Viens, viens me dire ce qui ne va pas. Viens me dire la méchanceté des hommes, viens me le dire, viens me soumettre tout cela, parce que je t'ai donné à travers Jésus cette libre entrée dans le sanctuaire. Et c'est là que tu es, et parce que tu as enlevé tes chaussures, tu as ôté tes chaussures, tes prétentions, tu as mis de côté tes vêtements de ta propre justice, moi je sais, moi je viens, de tes connaissances. Tu as mis ça de côté et tu as revêtu le vêtement de justice de mon Fils Jésus-Christ. Alors je t'accepte et je t'écoute. Et Dieu nous donne ce conseil dans Ecclésiaste chapitre 5. Il nous dit quand tu t'approches, quand avec tes pieds tu viens dans la présence de Dieu, que tes paroles soient très peu. Ne parle pas beaucoup devant lui. Parce qu'il est au ciel et toi tu es sur la terre. Ça veut dire qu'il est dans les lieux élevés et quand on est dans un lieu élevé, sur une montagne, on peut voir très loin. Ça veut dire que Dieu est au ciel, il voit tout ce qui se passe. Alors, il connaît ce que tu vas lui dire, il le sait. Sois modéré, sois sobre. Aide la sagesse quand tu t'adresses à lui. Parce que c'est lui qui tient le souffle de notre vie dans sa main. Amen. Alors, je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux. Et ma douleur n'était pas moins vive. Verset 4. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue, l'Éternel. David dit à Dieu, dis-moi, s'il te plaît, mon Dieu, quel est le terme de ma vie ? Quelle question ? Quelle question David pose à l'Éternel son Dieu. Et c'est une question que nous pouvons aussi nous poser, ou poser à Dieu. Seigneur, tu m'as laissé sur la terre jusqu'à maintenant. Dis-moi, quel est le terme de ma vie ? Il y a des gens qui sentent qu'ils vont partir. Il y a des mères qui disent « Je vais m'en aller ». Ils ne savent pas ni le jour ni la date, mais ils le sentent. Ils sentent qu'il y a comme quelque chose. Et ces personnes-là, quand on les prend au sérieux, quelques temps après, on se dit « Tiens, elle me l'avait dit ». Et c'est vrai. C'est des personnes qui sentent, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ils sentent qu'ils vont s'en aller. Et cet homme, David, dit à Dieu, « Dis-moi ». Il demande à Dieu, il dit, « Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie ? » C'est-à-dire, « Dis-moi combien je suis peu de choses, en gros. Combien je suis fragile. Parle-moi de ma fragilité. » Et pourtant, de l'autre côté, dans le Nouveau Testament d'un Hébreu, la Bible nous dit que Dieu, il veut, il nous dit, « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. » D'un autre côté, il nous parle d'assurance et d'un autre côté, David nous montre la fragilité de l'être humain que nous sommes. Il dit à Dieu, « Mais dis-moi quel est le terme de ma vie ? Quelle est la mesure de mes jours ?» Combien nos jours sont courtes, combien nous sommes fragiles, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. La largeur de la main, quand vous regardez votre main, vous voyez que ça va très vite, c'est court, la largeur d'une main, ça, on le fait en une seconde. Parce que Dieu, pour Dieu, s'il nous laisse en vie 70 ans ou 80 ou plus, pour lui, il est comme il est hors du temps. Un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour pour lui. Mais nous, nous sommes liés par le temps, nous sommes bloqués, nous sommes enfermés dans le temps. C'est pour ça que la Bible nous incite à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Que nos cœurs soient appliqués à la sagesse, que nous sachions en quel temps nous sommes. Il dit que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme rien devant toi. Rien. Notre vie aujourd'hui a de la valeur devant Dieu à cause de Jésus. Parce que Jésus est venu dans notre cœur. Il a donné de la valeur à notre vie devant Dieu. Et on pourrait mettre toute l'humanité sur un plateau de balance. Sans Jésus, il ne ferait pas le poids. Et on met l'humanité avec Jésus dans leur cœur, sur le plateau d'une balance, devant Dieu. Dieu dit, ah, ça fait le poids parce qu'il y a Jésus dans votre cœur. Et quand Jésus est dans le cœur d'un homme ou d'une femme, ça a du poids aux yeux de Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas à la chair, mais il regarde ni à ce qui frappe les regards, mais il regarde au cœur. Et quand dans notre cœur il y a Jésus, alors Dieu s'arrête sur nous. Il nous fait miséricorde, il nous fait grâce, il patiente envers nous. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Vous enlevez le souffle là. Vous l'enlevez, Dieu l'enlève, parce que la Bible dit « l'homme n'est pas maître ». Je l'ai noté quelque part, ceux qui prennent note, c'est Ecclésias 8:8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Voilà ce que l'Ecclésias y dit. Ecclésias 8, verset 8. Le souffle que nous respirons, si le Seigneur l'enlève, nous sommes de la chair morte qui va tomber et qu'on va faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, on n'est rien du tout. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Vous enlevez le souffle, nous sommes à terre. Oui, l'homme se promène comme une ombre, dit David, verset 7. Il s'agite vainement. Il s'agite, il s'excite, comme Marthe s'agitait. Parce qu'elle était occupée à tant de choses. Il amasse. Et il ne sait qui. On amasse, on achète, on investit, on dit je vais mettre. Mais qui va recueillir ces choses? Qui va s'en occuper après? Qui va gérer? Rappelons-nous, la Bible nous dit que nous sommes passagers et pèlerins. Et notre patrie est dans le ciel. Et il dit ceci, il s'agite vainement, il amasse, un peu comme cet homme dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 16. Cet homme, ses affaires avaient prospéré. Et quand nous nous arrêtons un petit peu sur cet homme, nous constatons, c'est un homme qui avait de la sagesse. Il avait de l'intelligence, il était prévoyant. La Bible nous dit que les enfants de ce siècle sont plus sages que nous, les enfants de Dieu. Oui ou non? Eh bien écoutez, cet homme, dans Luc chapitre 12, au verset 16, souvent on le prend quelquefois pour l'évangélisation, mais je me suis un peu arrêté sur une autre facette. J'ai trouvé que cet homme était sage, il était prévoyant. Cet homme avait un grenier où il engrangeait ses récoltes, et comme cette année-là, ses récoltes avaient produit beaucoup, qu'est-ce qui nous donne Dieu? Qui c'est qui bénit? Qui c'est qui envoie la pluie? C'est bien Dieu. Dieu avait permis que la récolte de cet homme avait produit beaucoup plus que les années précédentes. Alors cet homme, il s'est mis debout, il a réfléchi, il a gratté sa tête, façon de parler, et il a dit, tiens, j'ai cette année, mes affaires ont prospéré. Alors je vais détruire ce que j'avais, ce qui était là, pour faire beaucoup plus. Il a élargi. Son cœur est resté toujours fermé, mais il a élargi les choses, son business, on va dire ça comme ça, le matériel, il a élargi, il a agrandi ses affaires. Pourquoi? Pour justement stocker toute la récolte de l'année, de cette année qui avait produit. Mais le problème de cet homme, jusque-là, c'était merveilleux. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le problème de cet homme, c'est quand il a commencé à parler à son âme. C'est là que la folie, voyez, c'est là que il est parti dans une forme de folie. Il a dit mon âme, il s'adressait à lui-même. Mon âme, tu as de grands biens. Réjouis-toi. C'est-à-dire, il dit pas à son âme, bénis l'Éternel, comme disait le psaume. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie. Ça, c'est l'enfant de Dieu. On n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. On bénit Dieu pour ses bienfaits. Mais lui, cet homme, il a dit, mon âme, tu as des biens en grand nombre pour des années. Voilà, tes affaires ont prospéré. Mon âme, réjouis-toi. C'est-à-dire, ne te fais pas de soucis. Mais dans la nuit même, Dieu est passé dans le coin. Et Dieu a liquidé son affaire. Et c'est là le problème, c'est quand Dieu nous bénit, notre cœur s'attache au matériel. Quand Dieu te bénit, mon frère, ma sœur, c'est pour que tu sois en bénédiction pour les autres. Quand Dieu te bénit, il te bénit pour que tu bénisses les autres. Tu les bénis, oui, que Dieu te bénisse par la parole. Mais si tu sais que ton frère ou ta sœur est là comme ça, il meurt de froid, il a qu'un petit vêtement, et tu dis « va et que Dieu te bénisse » et tu ne fais rien, ton amour n'est qu'en parole. Mais quand Dieu te bénit et tu vois ton frère et ta sœur dans le besoin, tu n'as pas besoin qu'il mendie son pain, parce que le juste ne mendie pas son pain. Mais tu vois, le Saint-Esprit te parle à ton cœur, tu dis « fais ça pour lui, pour elle ». Sans demander l'avis de qui que ce soit, tu te lèves, tu fais, et ensuite tu n'as été qu'un serviteur, une servante inutile. Tu n'as fait que ce que le Saint-Esprit t'a poussé à faire. Et tu retrouves ta place comme l'a fait Philippe. Tu n'as été qu'une servante, qu'un serviteur inutile. Quand on est attentif. Vous me suivez? Et cet homme, là où il est parti, dans ses problèmes, c'est quand il a parlé à son âme. Jusque-là, il a été sage d'avoir grandi, mais quand il a commencé à s'adresser à lui-même, Dieu a dit non, c'est fini pour toi. Aujourd'hui même, cette nuit même, c'est fini. Et cet homme, il a quitté toute la récolte, toute sa richesse, il l'a construit pour un autre. C'est un autre qui en a profité, oui ou non ? Il a travaillé pour les autres. Je poursuis, après je m'arrête, hein, parce qu'il faut que je m'arrête. Je prends un dernier verset avec vous. Ésaïe chapitre 2. L'heure est arrivée, alors il faut que je m'arrête. À partir du verset 22. C'est Ésaïe qui parle, poussé par l'Esprit de Dieu, il dit « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a, voilà le souffle qui revient. » Et Dieu nous encourage d'arrêter de placer notre confiance dans l'homme, puisqu'il nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. » Dieu veut nous rappeler cet après-midi de détourner nos regards des hommes, mais de placer notre confiance en lui. Parce que nous sommes engagés dans une course, les yeux fixés sur Jésus. Car de quelle valeur est-il ? L'homme n'est qu'un souffle. Si nous lui donnons de l'importance, aux yeux de Dieu, Dieu nous dit il n'a aucune valeur. C'est pour ça que Dieu nous encourage cet après-midi à ne pas nous confier dans les hommes, mais de nous confier en lui et en Jésus-Christ. Le dernier verset, j'avais dit que c'était le dernier, mais le dernier des derniers, c'est le psaume 141. Comme notre temps est réduit, alors nous sommes obligés de faire dans un temps minimum, un peu comme Pharaon, il voulait que les Juifs puissent fabriquer plus de briques avec la même quantité de paille. Quel miracle ! Vous vous rendez compte ? Il avait la foi, ce monsieur. Il avait la foi, cette foi qui est humaine, qui, pour son intérêt. Le psaume 141, verset 1er, mais ce verset 2, mais on prend le verset 1er. « Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. » Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Voilà ce que le psalmiste. Et il dit quelque part, un peu plus bas, verset 3, il dit Éternel, mets une garde à ma bouche. David disait à Dieu, mets une garde. Le psaume 39, il disait, je ne parlerai pas tant que le méchant est devant moi. Et là, il dit, Éternel, mets une garde à ma bouche. Il demande à Dieu de mettre une garde à sa bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Pour quelle raison ? Parce qu'il ne voulait pas pécher contre Dieu. Il voulait faire attention à ce qu'il dit. Et si vous voulez étayer, approfondir les choses dans ce moment de partage, vous pourrez aller dans Ecclésias chapitre 5, je vous l'ai dit tout à l'heure, verset 1er, quand on s'approche de Dieu, de faire attention à ce qu'on dit. Et savoir aussi tenir sa langue en bride, Jacques chapitre 1er, verset 26, j'ai noté. Et le psaume 90 que j'ai lu, enseigne-nous à bien compter nos jours. Je dis Amen. mais bien-aimés, j'ai fini ce moment de partage, mais dans mon esprit, peut-être demain après-midi, si Dieu le permet, s'il me laisse en vie, dans sa bonté, je partagerai avec le peuple qui sera là, sur « ôte les chaussures de tes pieds ». Et il y a eu un face-à-face qui a eu lieu entre deux personnes, un homme et un homme qui venait de l'au-delà. Cela se trouve, vous lirez à la maison, mais je partagerai ça avec eux demain après-midi, si Dieu me laisse en vie, c'est Josué. Vous vous souvenez, quand il était devant Jéricho, il était prêt, un jeune guerrier, un jeune serviteur de Dieu, il devait aller pour prendre la conquête de Jéricho. Il était là, il était, comme on dit, prêt à attaquer. Et au moment où il se met en action, il voit un homme debout devant lui, avec une épée à la main. Et la première des choses, c'est-à-dire il y a eu un face-à-face, lui le guerrier et un autre homme, il demande « Qui tu es ? D'où viens-tu ? De quel camp tu es ? Est-ce que tu es des nôtres ? Ou tu es avec eux ?» Josué parle à quelqu'un et il ne sait pas à qui il est en train de parler. Et cet homme, il déclare son identité. Et là, à partir de là, Josué, la première chose qu'il fait, il se prosterne. Son épée, il le met de côté et il se prosterne devant cet homme parce qu'il était devant un homme qui est sorti de l'invisible et qui a traversé le monde invisible pour venir dans le monde visible. Le chef de l'armée de l'Éternel. Il était en présence du chef de l'armée de l'Éternel. Imaginez-vous, le chef de l'armée, c'était le chef. Et ce chef était devant un autre chef. Le chef du peuple d'Israël. Moïse est mort. Josué prend le peuple. C'est toi maintenant qui es le chef. Deux chefs se font face à face. Il y en a un qui doit mettre un genou par terre. Qui le fait ? C'est l'humain qui met le genou par terre devant le divin. Alors Josué se prosterna devant lui. Et là, c'est quand je lisais cette histoire, ça m'a bouleversé. Alors je vous mets un peu en mélange, encore une louche en plus, du rab, pour que vous puissiez méditer cela. Et ne pas venir demain après-midi, parce que c'est notre auditoire qui sera là. Mais je vais partager ça avec eux, je vais continuer à le travailler. Vous allez prier pour moi, pour que le Saint-Esprit me donne les choses encore plus précises, plus en profondeur. Mais la simplicité de l'Évangile, c'est quelque chose de merveilleux. Incline notre tête et prions un instant.